Cela ressemble à un œuf posé en plein milieu du quartier européen à Bruxelles. C'est ici que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ainsi que les ministres se retrouveront à l'avenir. Mais avant d'entrer dans le cœur, il y a un cube de 3750 châssis de fenêtres. L'œuf est à l'intérieur, mais l'architecte préfère l'image d'une lanterne.
Une nuit, j'ai toujours un crayon et un bout de papier à côté de mon lit, au grand dam de mon épouse d'ailleurs. Tout à coup, m'endormant, pensant à cette lanterne, comme vous pouvez imaginer, j'ai dit, mais c'est évident, c'est une lampe. C'est une lanterne, c'est vraiment... On a un grand abat-jour qui est l'extérieur, et on a une lampe dedans. Pendant la journée, on voit l'abat-jour dans son séjour, et la nuit, la lampe brille. Et puis cette forme quasi définitive est née d'un coup de crayon, et l'ordinateur a compris ça en quelques heures le lendemain, quoi.
Un peu moins d'un mois des élections européennes, alors que la campagne officielle doit débuter en fin de semaine, nous continuons sur France Culture de parler des enjeux du scrutin, comme ce matin au micro de Guillaume Erner, qui recevait certaines des têtes de liste, et toute la semaine avec la caravane des européennes proposée par la rédaction. La déambulation est définitivement le moyen privilégié pour essayer de comprendre et de donner du sens à une construction européenne qui semble plus que jamais en but à l'incompréhension. Il faut peut-être, pour ne pas totalement sombrer dans l'indigestion face à la bureaucratisation, la complexité des traités, l'enchaînement des crises et finalement le match annoncé entre libéraux progressistes et national-populistes, s'attacher à voir l'Europe autrement, chercher les espaces dans lesquels la politique a une certaine chance de se développer et de développer une vision. Et si c'était du côté de l'architecture qu'il fallait regarder? C'est le pari de notre invité, Ludovic Lamont. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez été correspondant à Bruxelles pendant 5 ans. Vous signez Bruxelles Chantier, sous-titré « Une critique architecturale de l'Europe » chez l'éditeur Lux. Et dans ce livre, vous racontez le quartier européen par son architecture et la construction européenne par ses choix ou ses non-choix, on y reviendra, urbanistiques. Pour comprendre l'UE, il faut commencer par parler aux architectes aujourd'hui, Ludovic Lamont.
Bah disons que moi, c'est un des... Quand je suis arrivé dans le quartier européen en 2013... Dès 2012, j'ai eu une première impression qui était assez glaçante, c'est-à-dire que j'étais un peu perdu, inquiet par la masse de gris, de couleurs très grises qui m'entouraient, et j'ai plutôt eu l'impression que j'avançais, que je déambulais dans un espèce de quartier financier plutôt qu'une capitale politique. Et je ne trouvais pas ce qu'on associe d'ordinaire à une capitale traditionnelle, c'est-à-dire quelque chose de monumental, avec des bâtiments qui peut-être expriment un projet politique assez clair. Et ça m'a étonné, et je me suis dit qu'il y avait peut-être matière à enquêter sur cette espèce d'absence de caractéristiques d'une capitale traditionnelle. Et du coup, oui, effectivement, d'aller voir des architectes qui ont construit dans le quartier européen à Bruxelles. Et en même temps aussi, c'était ça le pari du livre, d'aller voir des eurodéputés, des commissaires, pour voir si ces gens-là aussi s'intéressent à l'architecture. Et d'essayer, comme ça, en croisant des regards, de parler un peu autrement de l'Europe et de la crise politique qu'elle traverse.
Et vous en avez trouvé des eurodéputés ou des hommes politiques qui s'intéressent à l'architecture, on y reviendra. Mais peut-être il faut dire aussi, et ça s'entend un petit peu avec votre première intervention, Ludovic Lamont, que ce livre est né d'une peur. La peur de vous fondre dans le gris des murs des bâtiments européens et dans le beige. On apprend que les moquettes sont beiges au sein de l'Union européenne. Et finalement, vous avez le sentiment, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de ceux qui travaillent à Bruxelles, qu'ils soient journalistes ou qu'ils aient d'autres fonctions, que l'Europe, l'Union européenne, phagocyte un peu ceux qui y vivent et qui y travaillent. Et ça se ressent dans l'architecture, vous nous dites.
En tout cas, moi j'ai travaillé sur cette première impression-là, qui était de fait une sensation un peu de peur, très très pragmatique, de se dire comment je vais rester plusieurs années dans ces quelques mètres carrés où on trouve à la fois un siège du Parlement européen, la Commission, le Conseil, et j'avais du mal à me projeter, et je me suis dit un peu à la manière des situationnistes il y a quelques décennies, un peu le climat, le décor influence forcément la manière dont on pense, et si on n'arrive pas à sortir un peu de ce gris des murs, de ce beige des moquettes, on ne parviendra pas non plus à trouver des réponses à la crise de l'euro. C'était en 2012-2013, on était en plein là-dedans, avec évidemment le moment un peu de la crise grecque qui a été un des moments clés, moi, de ma présence à Bruxelles. Et du coup, j'ai essayé, oui, effectivement, de poser cette correspondance entre les murs, l'architecture, les pierres, et du coup aussi les traités européens. Et donc du coup, c'est un projet assez peut-être étonnant, mais qui je suis persuadé qu'en regardant un peu les plans des bâtiments, des matières, on peut essayer aussi de faire de la pédagogie sur les cultures politiques de chaque institution et d'essayer de comprendre en fait la manière dont chaque institution se met en scène, ce que ça révèle aussi de sa culture politique et de son fonctionnement.
Étonnant, peut-être pas, Ludovic Lamont. Finalement, on parle bien de construction européenne.
Absolument.
Le chantier européen, c'est une métaphore qui est souvent filée quand on parle de l'Union. Alors peut-être commencer par caractériser ce qu'on voit à Bruxelles, le long de cette rue de la Loi que vous avez arpentée à plusieurs reprises. Vous nous dites postmodernisme. Le quartier de l'Europe appartient à ce courant architectural du postmodernisme. C'est né la grammaire dominante de ce district bruxellois. Qu'est-ce que c'est que ce postmodernisme en architecture et en quoi il s'incarne dans un nouveau style qui serait presque le style Union européenne de l'architecture?
Oui, effectivement. De fait, on est en plein dans le postmodernisme, puisque en gros l'essentiel de ce qu'on voit dans le quartier européen aujourd'hui à Bruxelles date du début des années 80 et ensuite. Et effectivement, ça correspond à une période de l'architecture. Donc on est après le modernisme des grands architectes type Le Corbusier, Mies van der Rohe, etc. Et là, on a un travail. Alors c'est un courant qui est absolument passionnant, en fait, qui intègre beaucoup d'emprunts à l'histoire de l'architecture, qui a un courant aussi qui s'intéresse à l'ornementation, au décor, qui est un courant en théorie beaucoup plus joyeux en fait que le modernisme. Évidemment, l'un des architectes clés pour penser ça, c'est par exemple Ricardo Bofill, catalan. On pense aussi par exemple, les modernistes étaient très attachés par exemple à une ville comme Chicago. Là, c'est plutôt Las Vegas, sur justement l'apparition des signes, des images, des façades comme des images, etc. Et finalement, la construction du quartier européen pendant ces décennies-là, elle intervient au moment de la mise en place d'une grammaire qui est postmoderniste. Le problème, et là, c'est après, il faut rentrer dans les histoires bruxelloises aussi, c'est que, il me semble, c'est un postmodernisme un peu éteint, qui est pris en charge en fait plutôt par des promoteurs immobiliers qui ont vu des intérêts à court terme et qui n'ont pas pensé forcément en termes de projet. Et donc beaucoup en fait des bâtiments qui existent aujourd'hui sont déjà en train de se fissurer, sont en cours de reconstruction. Et donc on est sur un peu un ersatz de postmodernisme qui ne serait pas réussi en fait.
Qui ne serait pas réussi, qui oublie le beau, on le comprend en vous lisant Ludovic Lamont. Mais bon, ça c'est pas propre tout à fait à l'architecture européenne, comme le rappelait au micro de la Grande Table il y a très peu de temps l'architecte marseillais Rudy Ricciotti.
C'est un travail sans signature. C'est ça qui est émouvant dans l'architecture des églises. Ils sont nombreux les artisans inconnus à avoir mis leur émotion, leur mémoire, leur savoir-faire. Et vous savez, ces savoir-faire participent d'une cohésion sociale. C'est très très important. On a besoin de ces métiers, on a besoin de tous ces gens. Vous savez, si une façade du 19e siècle pouvait être décrite par 100 mots, aujourd'hui la façade d'un immeuble contemporain ne peut pas être décrite par plus de 3-4 mots. Si on a perdu 96% des mots, c'est que nous avons perdu 96% des savoirs et 96% des mémoires et 96% des noms de métiers. Donc nous sommes extrêmement appauvris sur ce sujet. Force est de constater que la modernité aujourd'hui, ce discours de rupture, nous a amené à un certain exil de la beauté.
Rudy Ricciotti qui réagissait évidemment à la destruction de la cathédrale de Notre-Dame et qui s'inquiétait justement en miroir avec ce qu'avait pu être évidemment ce grand temps des cathédrales, qui s'inquiétait de la disparition du souci du beau et surtout d'une perte de connaissance, d'une perte de sens en définitive.
J'ai écouté cet entretien que j'ai trouvé très fort effectivement. Alors moi très modestement, mon projet il est pas tant de chercher le beau dans le quartier européen mais plutôt je crois d'essayer de chercher en fait la question de l'éloquence architecturale. Moi je suis parti de ce concept qui m'a beaucoup aidé hein, qui a été défini notamment par l'historien Patrick Boucheron. L'idée c'est pas tant de dire bon bah voilà, ces bâtiments, ces rues, ce manque de cohérence sont laids, et donc du coup l'Union européenne dysfonctionne, est en crise, et voilà, comme un espèce d'effet miroir où regardez la façade, et comme cette façade est laide, forcément l'institution qu'elle abrite ne fonctionne pas, ça me paraît un peu caricatural, et faire des raccourcis. Mon projet, c'est plutôt d'essayer de comprendre, justement comme à partir de cette idée d'éloquence, de ce qu'ont essayé de raconter ceux qui ont construit ces institutions, quel est le récit qui a été mis en place, et aussi quel est l'imaginaire que défend chaque institution politique. Et là, à partir de là, il me semble que depuis cette question-là, on peut se demander, on peut commencer à regarder, alors voilà, comment fonctionne le plan de la Commission européenne, comment est organisé le Parlement à Bruxelles, la place de la plénière par rapport aux salles des négociations, qu'est-ce qu'on a voulu raconter au public qui vient visiter le quartier européen, comment sont positionnés telle institution, par exemple la Commission, qui est censée incarner quand même l'exécutif, l'intérêt général européen, par rapport au législatif, le Parlement, comment ces deux institutions sur le damier bruxellois sont positionnées. Moi, il se trouve, une des premières surprises quand je suis arrivé, c'est que justement la place du Conseil, l'intergouvernemental, la Commission et le Parlement ne dit rien. Ça ne raconte rien. En ce sens-là, c'est vraiment une forme d'anti-Brasilia ou d'anti-Washington, où là, on est arrivé avec un espèce d'énorme plan préconçu. On a construit une capitale en amont, en dessinant l'ensemble de ses composantes. Là, Bruxelles, ça a été complètement différent de ce point de vue-là. Ça a été une histoire de manque de coordination, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 30 ans, Bruxelles a jamais été désignée comme la capitale officielle de l'Union européenne. C'était, on n'a pas dit que dans les traités que Bruxelles était un siège de l'Union. Ça n'a été fait qu'en 1992, compromis d'Édimbourg, qui est ensuite rajouté au traité d'Amsterdam en 1997. Et donc c'est seulement à partir de là que Bruxelles devient véritablement le siège de l'Union européenne.
Alors là, moi je l'ai appris en vous lisant, c'est peut-être une histoire connue, mais c'est au hasard de l'ordre alphabétique finalement que Bruxelles est devenue la capitale de l'Union européenne, puisque la Belgique, ben, ça commence par un B.
Exactement, en fait, on est juste après le traité de Rome, la CE se met en place en 1958, et là évidemment, il y a une bataille pour qui va héberger entre les pays fondateurs les institutions européennes. Et de manière pragmatique, on part sur l'idée d'une présidence tournante. Et comme la Belgique, effectivement, vous l'avez dit, commence par un B, bam, ça arrive à Bruxelles.
Donc pas de projet directeur, pour reprendre un terme d'urbanisme, Ludovic Lamont, à la construction de ce quartier européen de Bruxelles. Et de toute façon, vous rappeliez l'exemple de Brasilia en disant que Bruxelles est un anti-Brasilia. Quand Niemeyer pense Brasilia, il veut une ville ouverte pour le peuple, avec la possibilité de manifester, la possibilité de rompre la distance entre le gouvernement et le peuple. Et Brasilia, c'est bien loin d'être ça aujourd'hui. Et alors, juste pour revenir un petit peu sur ce style UE, que vous appelez aussi le style démocratique, vous avez rencontré un architecte, hein, Nicolas Firket, qui dit, très bien, un style démocratique, mais pourquoi faut-il qu'il soit aussi consensuel, médiocre et vide?
Ouais, absolument. En fait, je me suis rendu compte au fil de mes entretiens aussi qu'il y a, alors, en fait, on peut l'expliquer de plein de manières, mais il est devenu, par exemple, très difficile, même aujourd'hui, vu l'existant, de construire dans le quartier européen, de construire des bâtiments hauts, ambitieux ou monumentaux, etc. Alors après, il y a tout un débat sur est-ce qu'on veut que ce soit monumental ou pas, et peut-être qu'on va y venir plus tard. Mais en tout cas, même construire, le simple geste de construire est compliqué. On a entendu en ouverture de l'entretien Philippe Samin, qui parlait de son bâtiment Europa, donc qui est un peu le nouveau bâtiment qui a été inauguré en 2016, où se réunissent les dirigeants européens. Là, on voit un peu les fameux sommets européens à chaque fois. Donc ça, c'est un nouveau bâtiment qui est effectivement qui marque un peu quand même une rupture. Parce que là, il y a eu un appel d'offres. Là, il y a eu un processus public. On a fait appel à des architectes, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas pendant une trentaine d'années auparavant. Ce bâtiment, donc c'est un cube. Et à l'intérieur du cube, on a donc un cube d'environ 11 étages, je crois. À l'intérieur, vous avez une forme comme ça d'amphore sur 8 niveaux. Et cette forme, Philippe Samin, quand vous lui demandez à quoi elle correspond, il explique aussi que c'est lié, en fait, aux difficultés de construire. Donc, il était obligé de construire, en fait, d'imaginer, de dessiner une amphore telle que pour ne pas qu'elle s'effondre, il fallait la mettre à tel point qu'elle ait telle forme, etc. Donc vous voyez que tout est très compliqué parce qu'en dessous, il y a des rails, il y a une gare, il y a du métro, etc. Donc
il n'y a aucune cohérence à la construction souterraine de Bruxelles, vous le
voilà.
rappelez.
En fait, je fais ce détour parce que quand on fait Brasilia, il n'y a rien. Donc voilà, c'est le rapport à la nature, etc. Là, à Bruxelles, on a choisi de faire une capitale politique aussi en plein cœur de la ville de Bruxelles. On n'est pas très loin de la Grande Place quand on est dans le quartier européen. Et donc c'est une des difficultés. Si on regarde par exemple Luxembourg, les bâtiments européens sont sur un plateau, le plateau de Kirchberg, un peu loin. À Genève, les bâtiments des Nations Unies sont assez éloignés aussi. À Bruxelles, alors certains trouvent que ça a beaucoup de charme du coup, les bâtiments européens sont insérés dans le cœur de la ville.
Alors peut-être faut-il pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien Bruxelles, qui n'ont pas eu le courage ou la chance de visiter son quartier européen, le reste de la ville le mérite, mais c'est vrai que ce quartier européen qui n'a pas pris cette rue de la Loi en voiture, en venant notamment du rond-point Schuman, de la place Schuman, ne sait pas ce que c'est que l'horreur urbanistique Ludovic Lamant. Peut-être faut-il nous emmener un petit peu dans cette déambulation, cette visite, en commençant par exemple avec un architecte, Rem Koolhaas, qu'il faudra présenter si vous le voulez bien à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce star architecte, qui à plusieurs reprises a manifesté le besoin, l'envie d'intervenir sur ce quartier européen qu'il appelle lui Ground Euro, en référence évidemment à Ground Zero aux États-Unis.
En fait, ça fait partie des personnages clés du livre, effectivement, parce que je trouve que c'est un personnage absolument passionnant, architecte néerlandais qui est incroyable théoricien qui a écrit notamment un livre définitif sur New York et Manhattan et là qui à plusieurs reprises dans sa carrière a essayé de construire des choses pour l'Europe, pour l'Union européenne, en européen fervent, et donc il a proposé des projets pour notamment le quartier européen, et à chaque fois avec l'idée, lui défend vraiment l'idée d'une art capitale, d'une capitale un peu monumentale, parce qu'il faut incarner un projet européen. Bon, lui, c'est le théoricien un peu de la bigness, hein, d'un espèce de monumental qui se conjuguerait avec ce que lui perçoit comme le chaos des grandes villes. Et donc, il a notamment proposé, moi je me suis attardé sur ce projet avec Nicolas Firquier, donc, que vous citiez tout à l'heure, tout un projet de rassembler les bâtiments de la Commission. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans le quartier européen, il y a le siège de la Commission qui est le Berlaymont, là où les bureaux des commissaires se trouvent. Mais en fait, la Commission européenne, c'est une soixantaine de bureaux. Et quand vous êtes un arpenteur, disons, lambda du quartier, il est impossible de savoir où se trouvent les bâtiments. Lui a dit, il faut rendre ça visible et il faut rassembler ces 60 bâtiments pour structurer l'ensemble de la rue de la Loi, qui est cette grande artère qui traverse le quartier. Et on va faire des portiques inversés. Donc, il a repris un peu le motif du Parthénon grec. Et dans un geste un peu démesuré comme ça, il a restructuré toute la rue de la Loi. Ce projet avait un avantage, par exemple, qui était que dès qu'on arrivait, n'importe qui arrivait à Bruxelles, voyait immédiatement où était le pouvoir, avec des guillemets, européen. Ce projet, donc c'était un appel d'offres à partir de 2008, si je me trompe pas, a été retoqué. Hein, il est arrivé en finale et les commissaires et les autorités bruxelloises ont sans doute en partie pris peur. Moi, une des thèses que j'avance, c'est qu'il y a vraiment une frousse un peu, de la part de la Commission, à incarner sa souveraineté et à exister comme un espèce de pouvoir, notamment en pleine période de crise. On est dans la crise de la zone euro, les relations avec les États membres sont très compliquées, et il y a une réticence à s'affirmer comme un espèce de pouvoir de l'Union européenne. Alors après, on peut décider que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est là où les choses se compliquent un peu. Il y a eu un débat qui est assez, c'est là, mais que moi je trouve passionnant.
Avec Umberto Eco, oui.
Voilà, exactement. Umberto Eco lui dit, là, il y a une erreur. Il faut pas penser la capitale de l'Union européenne sur le modèle des capitales d'un État-nation traditionnel. Tout simplement parce que l'Union européenne n'est pas un État-nation. Et donc, il faut aller chercher d'autres imaginaires, d'autres manières de penser la capitale. Et justement, pas dans le monumental, mais Umberto Eco dit, on va plutôt s'appuyer sur un réseau de villes-États qui renouent un peu avec un imaginaire du Moyen-Âge. On va poser au cœur la question de la traduction, en imaginant justement ce que serait qu'une capitale un peu dématérialisée, ou ce serait plutôt différentes institutions dans différentes villes qui travailleraient ensemble, etc. Donc, on voit que ces débats sont très vifs. À ce stade, Raïm Koulas, lui, n'a jamais rien construit. Il n'est pas sûr qu'il ait dit son dernier mot. On va voir ce qui se passe. Mais effectivement, moi, dans mon projet, c'était aussi d'enquêter sur ces projets un peu fantômes qui n'ont pas vu le jour et qui sont, pour le coup, passionnants.
Oui, les projets qui ne se font pas, on dit souvent plus, voire autant, que les projets qui se font, Ludovic Lamant. Mais justement, sur ce désir d'incarnation, que ce soit dans la monumentalité à la Raïm Koulas ou dans d'autres lieux, comme le propose Umberto Eco, c'est au cœur, évidemment, d'une forme de renoncement, en tout cas pour ceux qui observent l'Union européenne. C'est le cas du médiologue Régis Debré qui s'exprimait à ce sujet sur France Info.
L'Europe reste comme une usine à gaz, une superposition d'organismes que les gens ne comprennent pas bien. Et il n'y a pas d'affectivité. Il n'y a de communauté stable qu'imaginaire. Toute société veut de la fiction, disait Valérie. Et il n'y a pas de fiction européenne. Il n'y a pas de légende européenne. Vous savez, un peuple, c'est quoi? C'est d'abord des contours et puis c'est des compteurs. Des contours, c'est-à-dire il y a une frontière, il y a un territoire. Et on ne sait pas aujourd'hui d'où l'Europe vient, mais on ne sait pas non plus où elle finit. Donc il n'y a pas de contours. Et puis il n'y a pas de compteurs.
De récit, vous voulez dire?
Il n'y a pas de récit. Il n'y a pas de poète, il n'y a pas de légende, il n'y a même pas de cinéma qu'on puisse dire européen, sauf les Europuddings, comme on dit. Donc c'est le drame de l'Europe, si vous voulez, c'est pourquoi elle touche le cerveau, mais pas le cœur.
Oui.
Un contour et des compteurs, nous dit Régis Debré. Vous êtes d'accord avec cette analyse?
En tout cas, moi, j'avoue, alors c'est peut-être un peu raide de le dire comme ça, mais que l'imaginaire européen, tel que le véhicule beaucoup des institutions européennes, me déprime. C'est-à-dire que c'est pas un imaginaire dans lequel je me retrouve. Et je trouve que...
Il y a donc bien un imaginaire, quand même, selon vous.
Oui, que j'essaye de travailler, justement, en abordant chacun de ces bâtiments.
Donc un imaginaire gris et bureaucratique.
Oui, la figure de l'expert, la figure du père fondateur, qui est sans cesse, voilà. Moi, ça, c'est des imaginaires. Pour avoir travaillé 5 ans et demi entre les murs des institutions européennes, c'est des choses qui sont, voilà, la question de l'expertise face aux États membres, la question effectivement du père fondateur. Oui, c'est des choses qui participent à l'imaginaire européen. Donc, moi, je suis plutôt d'accord avec l'idée que, enfin, voilà, moi, une des manières, c'est de, il me semble qu'au-delà de sortir des crises européennes en cours, etc., moi, par exemple, quand Thomas Piketty dit, il faut un parlement de la zone euro. Super. Donc là, on rentre dans l'usine à gaz dont parlait Régis Debré à l'instant. Mais en même temps, en théorie, c'est loin d'être idiot. Mais on voit bien que, du coup, on travaille aussi une figure de l'Union européenne très éloignée de la population. Et donc, par exemple, dans le livre, il y a un échange avec quelqu'un comme Paul Magnette. Paul Magnette, qui est bourgmestre à Charleroi, une ville de Wallonie, en Belgique, et qui s'est illustré dans le fameux bras de fer entre la Commission européenne et la société civile et la Wallonie, cette région de Belgique.
Oui, parce qu'il est aussi président ministre, je crois que c'est ça le titre.
À l'époque, il était
président ministre de la Wallonie.
Exactement, sur la question du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et il me semble que c'est quelqu'un qui a réussi, soudainement, à ce que à un moment, en octobre 2016, si je me trompe pas, tout le monde s'est passionné pour cette question-là, européenne. Beaucoup de populations partout, la une des journaux était sur cette question-là. Et là, on a eu un moment un peu européen. On a eu un moment aussi assez critique sur comment désobéir à l'Europe tout en étant pro-européen, etc. Et ces questions-là, du coup, il se trouve que Magnette aussi a plein d'idées d'architecture. Et lui propose, par exemple, il dit carrément, le Parlement européen, alors de Bruxelles, pas de Strasbourg, le siège du Parlement à Bruxelles, rasons-le. Table rase, et relançons un espèce d'appel d'offres un peu beau, un peu fort, où la question justement de l'imaginaire de quelle Europe on veut, autour de comment redessiner un hémicycle aujourd'hui, après les années de crise qu'on a passées, etc., pour être un prétexte à radicaliser un imaginaire qui nous échappe un peu.
De toute façon, ce Parlement, peut-être qu'il va falloir le raser, puisqu'il est fissuré aujourd'hui, vous le rappelez, Ludovic Lamant, alors qu'il n'est pas si vieux que ça, ce qui montre aussi la pérennité de la construction européenne en miroir, et peut-être c'est ça aussi qui, avec la question politique, et c'est peut-être ça aussi qui a donné tant d'importance aux interventions de Paul Magnette. Vous citiez Thomas Piketty, avec Antoine Vaucher et d'autres, ils ont fait tout un travail justement pour proposer de repolitiser l'Europe, à leur idée, évidemment, mais voilà, c'est au moins une proposition qui permettrait peut-être d'intéresser un peu peu plus les citoyens à l'Europe. Et alors peut-être, revenons à l'architecture, parce que vous citez un historien médiéviste comme Patrick Boucheron, qui a travaillé sur les villes italiennes à l'époque médiévale, et justement sur le rôle politique des façades, des cathédrales, des constructions à ce moment-là. Vous citez aussi Erwin Panofsky, qui a travaillé sur cette question-là. En quoi l'architecture, selon vous, pourrait permettre de sortir de cette forme, justement? Est-ce qu'il faut d'abord passer par l'architecture, ou est-ce qu'il faut d'abord réformer l'Union européenne? Et ça se traduira dans l'architecture, Ludovic Clément.
Non, moi je pense qu'il y a un rôle, justement, qui a été complètement mis de côté, oublié, justement parce que pendant 30 ans, le quartier européen, donc ça a fonctionné par des systèmes de... les institutions européennes louaient à des promoteurs immobiliers des bâtiments. Ça, c'était l'existant pendant 30 ans. Je pense qu'il faut repenser complètement ça, c'est en train d'être fait. Mais je donne l'exemple, par exemple, dans le livre du Parlement d'Édimbourg, en Écosse. Pour moi, c'est un bon exemple. Donc c'est un parlement qui a été réalisé il y a peu de temps, qui rentre, voilà, évidemment dans une volonté de l'Écosse d'incarner davantage de souveraineté et de pouvoir par rapport à Londres. Et c'est un parlement qui a été pensé de manière totalement différente de ce à quoi on a l'habitude de faire, puisque le cœur, quand on marche autour de ce bâtiment, ce qui saute aux yeux, c'est pas la plénière. C'est pas là où siègent tous les les députés écossais en l'occurrence, mais c'est plutôt l'ensemble des salles autour où se retrouvent les conseillers, les assistants, et là où sont véritablement réalisés les compromis, les deals politiques. Et là, moi, je trouve qu'en termes d'explication aussi du projet politique et tout, c'est intéressant. Pourquoi ça pourrait marcher, par exemple, sur le Parlement européen? Moi, je suis souvent, c'est plus en tant que journaliste sur les questions européennes, j'ai du mal à me passionner, par exemple, pour la plénière de Strasbourg. Je trouve que c'est souvent un théâtre où les vraies prises de position, les vrais deals politiques qui sont passionnants, décisifs, sur des textes hyper importants pour la vie des gens, sont faits, en fait, dans des commissions thématiques à Bruxelles, ou sont faits dans des deals transpartisans qui ont lieu la plupart du temps dans d'autres salles.
C'est un sujet qui était beaucoup abordé ce matin dans l'émission de Guillaume Herner avec trois différentes têtes de liste pour La République En Marche, le Parti Communiste et la liste de Raphaël Glucksmann, le Parti Socialiste Place Publique. C'est justement le rôle et la puissance aujourd'hui, le pouvoir plutôt que la puissance, le pouvoir des parlementaires européens. Et vous, ce que vous nous dites, c'est finalement quand on a l'impression qu'ils sont impuissants, parce que quand on voit une plénière, on se rend bien compte que...
Oui, mais en fait, ce que je voudrais aussi dire, c'est que le moment important politique dans la fabrication des textes et des accords au Parlement européen ne se passe pas forcément en plénière. Et ça, il me semble que l'architecture d'un nouveau bâtiment, d'un Parlement, pourrait aider à comprendre ce genre de choses et faire qu'on aille regarder, bah tiens, dans la commission commerce, par exemple, puisqu'on parlait du CETA, la commission commerce où se retrouvent une soixantaine d'eurodéputés chaque semaine à Bruxelles, bah tiens, quelles sont les positions des élus RN, des élus LR, etc., etc., dans ces commissions. Et donc, du coup, on pourrait imaginer une architecture qui mette davantage en valeur ces lieux-là et qui permet de faire comprendre aussi aux gens qui visitent le Parlement qu'on n'est pas dans une plénière toute puissante où tout se joue là, mais au contraire qu'il y a des batailles, des compromis qui sont faits dans les couloirs, et c'est là aussi où agissent des lobbies, et c'est là où il faut mettre la lumière.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
La Grande Table avec le journaliste à Mediapart Ludovic Lamant qui signe Bruxelles chantier, une critique architecturale de l'Europe. On parle donc d'Union européenne en ce début de campagne électorale pour les prochaines élections du 26 mai, Ludovic Lamant. Il y a un certain nombre de propositions qu'on a commencé à évoquer dans votre livre. Il y en a une qui est importante, on a beaucoup parlé de politique, il faut peut-être parler aussi un petit peu d'Europe sociale, puisque en analysant la place Schuman et notamment un projet qui a finalement été refusé, qui est celui de l'agence XDGA de Xavier de Gaeter, je suis désolé si je le prononce mal, qui était de créer sur cette place Schuman. Alors bon, c'est vrai que c'est un projet un peu étonnant, de soulever l'asphalte, voilà, créer une forme d'agora, mais qui rappelait bien qu'il n'y a pas de lieu au sein du quartier européen pour les manifestations, la protestation sociale, et donc qui pourrait amorcer une forme de mouvement social européen.
Bah absolument. Moi, je me suis intéressé aussi effectivement à cette place Schuman. Alors, depuis quelques semaines, je me suis fait un peu déborder par l'actualité, puisqu'il se trouve que les marches pour le climat, qui ont lieu en Belgique et qui sont extrêmement fortes en Belgique, s'emparent un peu des alentours du Berlaymont, c'est-à-dire le siège de la Commission européenne et les bureaux de Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission. Mais sinon, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace, il n'y a rien de fluide, il n'y a pas un lieu de rassemblement évident, etc. Et il se trouve que quand Xavier de Gaeter a proposé cette espèce d'arène, avec l'idée comme ça de soulever l'asphalte de part et d'autre de la rue de la Loi, ce qui, par ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, me semble résoudre un peu le dilemme entre hard capital et soft capital, parce qu'il y avait là un peu de monumental, mais aussi à échelle humaine, où chacun pouvait s'approprier cet endroit. Bon, bah, ce projet, pour des raisons alors officiellement budgétaires, a été retoqué, et les institutions et les autorités bruxelloises n'en ont pas voulu, finalement, et ça ne s'est pas fait. C'est quand même un symbole de, voilà, d'un rejet, ou en tout cas d'une mauvaise prise en compte de ce que serait un contre-pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit dans le quartier européen où spontanément on peut se rassembler, comme l'on fait. Alors, je donne des exemples liés à la crise de l'euro et liés à la crise financière, mais les indignés sur les places espagnoles. On n'a pas ça dans le quartier européen, ce qui est quand même assez sidérant. C'est-à-dire, tout la grande avenue qui longe le Parlement européen, par exemple, pourrait être un endroit comme ça. Petit détail, cette avenue, en fait, piétonne, et en fait posé sur des rails, en dessous on a un train qui passe régulièrement, et donc le poids est limité, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus avoir d'action collective ou de rassemblement, de peur que tout cela s'effondre. C'est vous dire un peu la fragilité de l'ensemble du quartier européen, et ce qui fait que, oui, effectivement, c'est un truc qui m'a énormément désarçonné quand je suis arrivé, donc j'ai essayé de creuser ça, oui.
Et c'est vrai que la métaphore peut être filée à l'infini sur la construction européenne, oui, Ludovic Lamont s'en rend bien compte. Juste un mot quand même de l'actualité, puisque Emmanuel Macron a tenu la semaine dernière une conférence sur la situation politique en Europe. Il appelle à une refondation, on l'a vu, et qui repose notamment sur repenser la politique migratoire de l'Europe, repenser aussi un espace Schengen peut-être réduit, en tout cas dans des limites, pour reprendre l'expression de Régis Debray de tout à l'heure, des limites européennes réduites. Il semble y avoir une forme de consensus aujourd'hui pour dire, voilà, l'Europe telle qu'elle fonctionne, ça va pas. Le problème, vous semblez nous dire, c'est que tant qu'elle sera construite de cette façon-là, ben on n'arrivera pas à en sortir. Construite, je veux dire, d'un point de vue architectural.
Non, mais les débats, moi je trouve déjà, hein, ce qu'on peut dire, là on est à un mois à peu près des européennes.
Ouais, le 26 mai, ouais.
Oui, voilà. Moi je trouve le débat commence très tard. Et alors que justement Emmanuel Macron avait fait de la question européenne l'ADN de son mouvement, le cœur.
C'est la faute à Notre-Dame.
Le cœur de sa présidence, oui. C'est aussi la faute aux Gilets jaunes, paraît-il, etc., etc. On n'a toujours même pas le programme de Renaissance, LREM, qui est censé arriver le jour de l'Europe, finalement. Donc ça me paraît très tard pour enclencher un vrai débat.
Nathalie Loiseau disait qu'il était déjà dans son sac. Ce matin, il était dans son sac, mais elle ne pouvait pas en dire grand-chose.
Ouais, c'est quand même assez sidérant. Mais au-delà de ça, effectivement, moi, le débat sur les traités, il est important. J'ai l'impression quand même que ça bouge un peu sur les positions de gauche, puisque voilà, l'idée d'une réforme des traités a l'air assez consensuelle à gauche. Et par ailleurs, moi je trouve, si on regarde le résultat des élections législatives espagnoles de hier soir, toute la rhétorique qui a essayé de mettre en place pardon, depuis son élection Emmanuel Macron sur, effectivement, vous le disiez en introduction, les progressistes, les pro-européens versus les nationalistes de droite type Viktor Orban et Matteo Salvini, il me semble que cette rhétorique non seulement voilà ne résiste pas à l'épreuve des faits, et on voit bien que en Espagne par exemple, bah voilà, un social-démocrate qui a fait un programme plutôt social, alors très pro-européen effectivement quand il vient à Bruxelles, mais voilà, sort vainqueur, et l'allié d'Emmanuel Macron, Ciudadanos, arrive en troisième position et l'extrême droite en cinquième position. Bref, on voit bien que le jeu est plus ouvert que la narration dans laquelle Emmanuel Macron et ses alliés essaient de l'enfermer.
Oui, vous l'avez dit, hein, les élections législatives espagnoles hier qui ont donné la victoire au socialiste Pedro Sanchez, mais qui aussi ne lui ont pas donné une victoire tranchée. Vous suivez pour Mediapart également, Ludovic Lamont, les affaires espagnoles. C'est tout ce qui a accompagné l'indépendance de la Catalogne qui enfin l'indépendance qui évidemment n'a pas eu lieu, mais ce référendum voilà sur l'indépendance de la Catalogne qui a vraiment marqué hein, ces élections espagnoles, et là encore comme un miroir de ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la subsidiarité, qu'est-ce que c'est que un État, comment est-ce qu'il doit organiser finalement les différentes volontés, les différentes indépendances. Quel regard vous portez sur ces résultats qui malgré tout donnent une victoire à un parti socialiste espagnol qu'on disait moribond il y a encore 2 ans, mais une victoire qui ne lui permet pas de gouverner seul.
Alors moi je suis quand même assez optimiste sur la possibilité d'un gouvernement Sanchez, ne serait-ce que parce que si on met de côté les indépendantistes catalans, certes il n'y a pas de majorité absolue, mais si on rentre dans la cuisine un peu des députés, il y a des régionalistes basques, des régionalistes à Valence, tout ça ferait à peu près 173 députés, il en faut 176 pour une majorité absolue, des abstentions peuvent se produire, bref, ça on verra, etc. Vous parliez de la Catalogne, un élément qu'il faut quand même souligner effectivement, c'est trois points forts, victoire écrasante de Sanchez qui renforce son assise politique très fortement, effondrement du Parti Populaire pris dans des scandales de corruption et concurrencé par Vox, l'extrême droite. Et puis le troisième point, c'est si on regarde la Catalogne. Là, le vote, et notamment les indépendantistes de gauche, les ERC, font 15 députés, plus le parti de Puigdemont, très bon score aussi. Bref, on est effectivement sur comment c'est la preuve en fait que les indépendantistes catalans vont continuer de peser très fort sur le jeu politique à Madrid.
Merci Ludovic Clément pour ce petit regard sur les élections espagnoles. Il faut lire Bruxelles chantier, une critique architecturale de l'Europe, c'est publié chez Lux. Merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table. La Grande Table idée, c'est Camille Fouchard et Laura Dutèche-Pérez. Pour Grande Table culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse d'Antoine Suzarelli et de Mathilde Thon-Fourcade. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig, et à la technique, Alex Dang.